20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La Bretagne, bout du monde, n'est pas pour autant un cul-de-sac de l'histoire, sorte de cimetière des éléphants, bien au contraire. Pensons par exemple à l'exceptionnel phénomène mégalithique qui se y développa vers le 5e millénaire avant notre ère, avec Gavrinis, Carnac ou Bardonnaise. On le sait, bien avant 1532 et l'union au royaume de France, la Bretagne possède une histoire originale, histoire que les archéologues mettent au jour, peu à peu, dans leurs fouilles. Pour faire le point sur les enjeux de l'archéologie bretonne, percevoir les dernières découvertes, je me suis rendu à Rennes pour y rencontrer Yves Ménez, conservateur régional de l'archéologie.
Alors la Bretagne, actuellement, en site archéologique connu, c'est 22 500 sites archéologiques enregistrés dans la carte archéologique nationale.
Faisons un petit tour d'horizon. Les sites très anciens, il y en a quelques-uns, il y en a quand même assez peu, ces fameux sites du paléolithique, voire du mésolithique.
Non, il y a certainement beaucoup de sites de cette période. Le site de Ménez-Dragan, donc, qui est fouillé à Plouhinec, à la pointe du Finistère, occupé il y a 450 000 ans, est tout à fait emblématique, en fait, de ces premières occupations humaines. Le fait qu'on retrouve cette occupation humaine très tôt avec des traces de feu aussi loin à l'extrémité de l'Europe montre que, en fait, la Bretagne était déjà occupée par des groupes humains dès cette période-là. Essentiellement la frange côtière, très vraisemblablement, et probablement les anciennes vallées, mais qui sont très peu prospectées actuellement. Donc là encore, il reste beaucoup à découvrir. Les grottes, on en a peu chez nous, hormis les grottes marines, qui étaient jusqu'ici très peu étudiées et très peu abordées, les abris sous roche également. Donc en fait, il y a encore beaucoup de sites de cette période-là à étudier, à découvrir, reprendre les collections anciennes. Et de ce point de vue-là, le site de Ménez-Dragan est emblématique, mais il n'est pas le seul.
Le site du Rocher de l'Impératrice à Plougastel est bien sûr beaucoup plus tardif. C'est une sorte de petite grotte aussi ?
Alors c'est plus exactement un abri sur roche qui en fait domine la vallée de l'Élorne, hein, qui est juste à côté de Brest. Donc le long de la vallée de l'Élorne, il y a une série d'abris qui est connue dans une propriété du département du Finistère. Et donc Nicolas Nodino étudie actuellement cet abri sur roche qui a connu notamment une occupation au moment de l'Asilien, il y a 18 000 ans avant notre ère. Et donc là, on est effectivement beaucoup plus tard que Ménez-Dragan, et qui a livré de superbes plaquettes gravées qui montrent en fait un art très développé en fait dans cette pointe Finistère. Là encore, on est au bout de l'Europe, et pourtant on retrouve ces phénomènes gravés avec des rayons en fait qui partent de la tête, qui est tout à fait étonnant.
Des grottes seraient retrouvées encore ?
Alors très certainement, des séries de grottes marines qui parfois sont actuellement noyées par l'eau, d'autres fois en fait qui sont exondées puisque le niveau de la mer a baissé et donc il y a des grottes qui ont été creusées plus haut, d'autres qui sont à l'interface et si le porche s'est effondré, qui peuvent encore avoir leurs sédiments conservés. Il faudrait cartographier tout cela, certains chercheurs les connaissent, par contre très peu sont enregistrés en fait dans la carte archéologique nationale. Il en est de même des abris sous roche qui dominent aussi bien la zone côtière que les zones des principales vallées. Là encore, un programme dit tous aux abris a été mis en place pour essayer de les localiser, de les cartographier et d'évaluer leur potentiel archéologique.
Une très jolie découverte aussi vers Quiberon. On remonte petit à petit dans le temps, à savoir bien sûr donc le mésolithique trouvé à Béguerville.
Oui, donc là on est à Quiberon, donc dans la pointe sud Morbihan. Un amas coquillier était connu depuis longtemps, fouillé par Olivier Kaiser notamment. Là, Grégor Marchand du CNRS a réouvert ce site dans le cadre d'une fouille programmée, en fouillant non seulement l'amas coquillier, mais en fait en décapant à l'arrière une zone qui était jusqu'ici occupée par des parkings. En fait, il a découvert les vestiges de maisons du Mésolithique, ce qui est une première nationale, avec des grands foyers parmentés de dalles de pierre.
C'est une chose qu'on connaissait assez peu, puisque la seule chose que nous avions, c'était des fouilles très très anciennes, bien sûr, les fouilles de Marthe et Saint-Just à Pécard.
Oui, là, en fait, c'était bien l'objectif de cette fouille, de déterminer non seulement, en fait, ce qui se passait dans l'amas coquillé, qui a conservé, en fait, tous les déchets de cet habitat, mais également de trouver, si possible, les vestiges de l'habitat à proximité. Et là, effectivement, maintenant, on connaît mieux ces vestiges qui, pour nous, sont une première nationale en termes de plan d'habitation.
Alors nous parlons là beaucoup du littoral, nous allons rentrer dans les terres, mais avant de rentrer dans les terres, peut-être dire que aussi votre côte, elle fond, et les sites archéologiques risquent de fondre avec elle ?
La Bretagne a 1000 km de côte, donc forcément on est assujetti aux variations du milieu marin. Puis les gens connaissent en général les tempêtes bretonnes qui peuvent être assez redoutables et transporter des blocs de pierre parfois assez étonnants, ou avoir une érosion aussi côtière dans les zones les plus fragiles en fait, qui est assez importante au fil des années. Il y a un programme appelé Alerte qui s'est développé par un réseau d'informateurs bénévoles ou professionnels, signaler les sites qui étaient menacés de destruction par cette érosion côtière et prendre au mieux que faire se peut au regard de la législation actuelle, en fait, les dispositions les plus adaptées pour leur sauvegarde par l'étude ou leur conservation.
J'ai souvenir des découvertes de Bels où toute une série de menhirs brisés avaient été découvertes il y a quelques années déjà. On retrouve encore des menhirs un peu partout en Bretagne ?
Et oui, on en a déjà beaucoup, mais les opérations préventives mettent ou remettent au jour, en fait, des sites mégalithiques, alors parfois des menhirs isolés, parfois des groupes de menhirs appelés alignements, parfois même des tombeaux dont on avait perdu la mémoire et qui étaient arasés et qu'on n'arrivait plus à localiser. Donc dans le cadre de fouilles préventives, par exemple, sur le site de Manemeur à Quiberon cette année, il y a eu une fouille préventive sur un cairn en grande partie détruit, mais qui en fait a été réidentifié dans le cadre d'une demande de permis, et donc qui a été fouillé par l'INRAP avant de libérer le terrain pour la construction. Son état d'arasement ne justifiant plus son classement au titre des monuments historiques ou sa protection en zone non constructible.
Vous avez aussi un vaste programme de LIDAR ?
Alors un vaste programme de LIDAR sur la zone UNESCO, puisque en fait pour faire ce géoréférencement précis de 550 monuments, la méthode la plus efficace reste quand même le relevé laser aéroporté, qui a été fait dans les deux tiers de la zone pour identifier la plupart de ces monuments actuellement connus et qu'actuellement on développe dans la partie sous-marine, puisque en fait le niveau de la mer a remonté depuis le néolithique et que la potentialité de mégalithes ou de cairns immergés ne doit pas être ignorée, y compris pour la constitution des ensembles et de la délimitation du bien UNESCO. Donc ce relevé a été effectué cette année et va être exploité durant les 3 ans à venir.
C'est par exemple le très beau Cromlech, le cercle de menhirs de Gavrinic qui est à moitié dans l'eau.
Alors qui est plus exactement celui d'Erlanic qui est en face de Gavrinic, donc qui a été effectivement relevé très précisément par Serge Cassen, chercheur au CNRS, qui a pu identifier des représentations gravées et qui se développe également effectivement dans le subaquatique. Et donc là, les relevés sur estran peuvent se faire par les archéologues et les relevés sous-marins, c'est soit par les plongeurs du DRASM ou des associations liées au DRASM, soit dans le cadre d'un laser aéroporté.
C'est intéressant parce que vous allez avoir le trait de côte de l'époque, le trait de côte durant le néolithique.
Alors, on pourra l'estimer, sachant que le trait de côte a évolué au cours du néolithique, puisque le néolithique, c'est quand même 3000 ans d'occupation. Donc, le trait de côte a forcément évolué. On pourra l'estimer sur une période du néolithique pour la délimitation du bien UNESCO. Mais il y a des variations marines qu'on connaît encore actuellement, mais qui n'ont pas cessé pendant toute l'histoire humaine, en fait, et dont on doit tenir compte pour la délimitation, en fait, des sites archéologiques.
J'ai souvenir des fouilles de la table des marchands à Locke-Mariaker. Il y a encore de grandes fouilles sur ce genre de sujet, avec de l'art par exemple.
Je dirais qu'à l'heure actuelle, les fouilles sont encouragées sur les sites menacés de destruction ou qu'ils sont conservés en suffisamment grand nombre pour que l'étude puisse se faire sans porter atteinte trop à la conservation de ce patrimoine. Pour les sites majeurs, très bien conservés, conservés en élévation, la logique, mon titre est conservateur régional, donc la logique est normalement de conserver, et toute fouille est un acte de destruction. Donc ce qu'on privilégie actuellement pour les sites mégalithiques de grande ampleur, majeurs, ornés, ce sont des techniques non destructives. Il y a deux programmes qui sont lancés, un programme sur l'architecture, donc l'architecture de ces grands cairns, là aussi par des scans en 3 dimensions qui permettent d'étudier en étude d'élévation, comme on le fait pour des bâtiments plus tardifs, médiévaux ou modernes, la façon dont ces cairns ont été construits et comment en fait ils se sont développés au fil du temps, puisqu'on sait maintenant que ces grands cairns sont des monuments évolutifs qui finissent par agréger plusieurs monuments funéraires ou des monuments funéraires qui s'étendent en fait sur une ampleur assez importante. Il y a une notion aussi de sauvegarde de ces monuments, puisque ces monuments, on a l'impression que bâtis en pierre ou en grosse pierre, ils sont inaltérables. C'est faux. Les stèles continuent à s'éroder. Ces monuments continuent en fait à subir les avanies du temps, parfois des dégâts humains. Et donc, il est urgent pour notre temps de conserver en fait l'état actuel de ces monuments pour les générations futures.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Les grands monuments dont vous me parliez tout à l'heure émergent au 5e millénaire de notre ère, c'est par exemple Barnenez.
Oui, par exemple, Barnenez, on commence à avoir des dates C14, en fait, sur tous ces monuments qui montrent effectivement qu'ils démarrent dès le 5e millénaire, donc très très tôt, et qui se poursuivent ensuite sur tout le néolithique jusqu'au néolithique final.
C'est un moment quand même très très important. Une société néolithique, donc d'agriculteurs, se met à construire des monuments absolument gigantesques.
Oui, c'est tout la question de la spécificité de cette zone. Alors là, je ne suis pas chercheur néolithique, moi c'est plutôt l'habitat de l'âge du fer qui est ma spécialité, mais se pose la question de savoir pourquoi ça a pris une telle ampleur en fait dans cette zone du golfe du Morbihan. Ça porte un peu le dossier UNESCO. Il y a une vraie spécificité en termes de monumentalité et de densité. Le fait que le golfe ait été en partie exondé à cette époque-là, qu'il y ait des zones en fait susceptibles de produire du sel à cette époque-là dans cette zone-là, le fait qu'il y ait eu une petite mer intérieure facilitant probablement le développement de la navigation également, puisqu'en fait certaines de ces stèles ont forcément été déplacées par bateau et pas par simple pirogue, a certainement joué un rôle, l'écosystème particulier de cette zone-là.
L'âge du bronze est souvent dit un âge sombre, ou du moins délaissé par les archéologues. Qu'en est-il en Bretagne ?
Alors en Bretagne, bon, il y a eu des recherches de Jacques Briard qui montraient une grande abondance de dépôts de cette zone-là, très particulier, avec un enfouissement par milliers d'objets métalliques. Une spécificité liée également au grand tumulus armoricain, puisqu'en fait on a des champs de tumulus de manière importante avec des monuments extrêmement massifs, importants, dès le début du deuxième millénaire avant notre ère. Donc on savait déjà que l'âge du bronze breton était brillant et démarrait très tôt. C'est lié au fait notamment des ressources en métallurgie de la pointe bretonne, donc avec des gisements d'étain, et des liens très précoces en fait aussi bien avec l'Espagne pour le cuivre qu'avec les îles britanniques de l'autre côté de la Manche. Donc une civilisation brillante qui démarre très tôt est liée en fait aux ressources en métallurgie de la pointe du massif armoricain. Par contre, on peinait à découvrir l'habitat. Ça a été là pour le coup une vraie politique de service d'essayer d'identifier ces sites, donc de lancer des diagnostics. Et quand les diagnostics accrochaient quelques trous de poteaux, quelques fosses, d'essayer d'avoir des datations rapides par carbone 14 pour identifier s'il pouvait s'agir de vestiges de l'art du bronze. À partir de là, on a prescrit systématiquement des fouilles qui ont donné rapidement des résultats. Et en fait, en l'espace de 15 ans, alors que quand Jacques Briard est décédé, on connaissait quasiment aucun plan de bâtiment de l'âge du bronze, à part celui de la Grande Roche aux Ébiens, qu'il avait lui-même étudié. En fait, on a vu des dizaines, des centaines de plans apparaître, et maintenant on commence à avoir des plans d'habitat depuis le bronze ancien, voire le campaniforme, jusqu'au bronze final, et avec des séries. Donc maintenant, on voit un peu mieux l'évolution de l'habitat de l'âge du bronze, alors que du temps de Jacques Briard, c'était totalement inconnu, et son lien également avec le funéraire, le développement des parcellaires.
On a aussi très souvent des dépôts bien sûr que l'on attribuait à l'âge du bronze, notamment de sortes de haches, des haches, on pourrait dire en creux, on appelle ça des haches à douille dans votre jargon. Ces haches n'appartiendraient plus à l'âge du bronze, auraient été repositionnées chronologiquement ?
Là encore, comme pour les dépôts de l'âge du bronze, on a effectué des décapages de moyenne ou grande surface autour des lieux de ces dépôts. Lorsqu'ils nous étaient signalés, on a pu en étudier plusieurs qui montrent qu'ils sont associés à des sites du premier âge du fer. On est plutôt dans le 7e, 6e siècle avant notre ère. Donc il s'agit effectivement d'un phénomène caractéristique du premier âge du fer. On commence à voir leur connexion dans les habitats. Donc le premier dépôt en contexte, on l'a trouvé sur le site de Carrario à Quimper, une petite fouille que j'ai effectuée, où en fait un site classique du premier âge du fer armoricain avec enclos, habitat, souterrain, grande cave boisée, a livré les vestiges d'un dépôt de hache à douille de ce type-là, associé à quelques parures bracelets du premier âge du fer. Et depuis, on a eu un sondage fait à Saint-Glain dans les Côtes d'Armor, qui a montré que en fait, dans un vase, autour d'un vase où était enfoui un dépôt de hache à douille de ce type-là, 7 autres vases sont apparus de même contenance, qui ont pu contenir des dépôts, et surtout, en fait, un nombre de trous de poteaux et de fosses du premier âge du fer assez abondant. Une fouille devrait se tenir en 2019 sur ce site-là pour mieux cerner le contexte de découverte de ces dépôts, savoir s'ils sont enfouis en habitat ou savoir s'ils sont enfouis dans des lieux plutôt cultuels ou funéraires.
En tout cas, ces fameux dépôts de haches un peu tardives, dirais-je, est une particularité de la Bretagne, peut-être aussi un petit peu de la Normandie. Une autre pour l'âge du fer serait ces sortes de souterrains et puis ces grandes stèles que l'on voit quelquefois ou dans le Finistère ou voire plus petites dans le Morbihan.
On a montré, là aussi par les décapages autour des lieux de découverte de ces stèles lorsqu'elles venaient d'être découvertes, qu'elles sont généralement liées en fait à des petits cimetières, donc cimetières familiaux qui se développent dès le 6e siècle avant notre ère et qui ensuite, avec un rite d'inhumation, et qui ensuite continue au 5e siècle avant notre ère avec un rite qui passe à l'incinération. Donc ce sont des stèles funéraires, soit collectives, représentant un groupement d'individus pour les stèles hautes ou monumentales, et soit en fait qui peuvent signaler des sépultures individuelles ou 2-3 sépultures pour des stèles plus petites. On les retrouve ensuite dans les habitats, mais souvent en fait rejetés, démembrés au moment où en fait ces cimetières sont abandonnés vers la fin du 5e, début du 4e siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, ce sont des monuments qui commencent déjà à devenir employés. Et lorsque ces stèles sont découvertes en fouille, elles sont souvent ornées de gravures. Donc là aussi, les scans 3D devraient être à développer. Gravures qui, lorsqu'elles sont restées exposées pendant 1000 ou 2000 ans à l'air libre, ont disparu, mais qui par contre, lorsqu'on les trouve en fouille, sont assez fréquentes, avec un répertoire ornemental qu'on retrouve également sur les céramiques estampées, par exemple, de cette période-là, mais un répertoire très développé associant des motifs géométriques, des grecs, des S, etc., caractéristiques de l'art de ces périodes-là. Pour les souterrains, donc là encore, du temps de Pierre Rolandjou, on en trouvait régulièrement et on fouillait uniquement les souterrains. Là encore, les fouilles préventives ont changé notablement les choses. On a fait des décapages de grandes surfaces atteignant plusieurs hectares autour de ces lieux de découverte de souterrains. La plupart sont liés également à des habitats, ce que j'appelle de la première série, des 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces souterrains continuent malgré tout à être creusés jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et après, en fait, on n'en a plus. Tous les habitats fondés après n'ont aucun souterrain. On les trouve majoritairement dans la moitié occidentale de la péninsule, d'une ligne qui va entre Vannes et Saint-Malo. On peut en trouver quelques-uns plus à l'est. Leur fonction a longtemps porté à discussion. Dans le cadre d'un Master 2, Stanislas Bossard, étudiant à l'Université de Nantes, a fait une synthèse de tous ceux qui avaient été trouvés en étudiant leur date de création et leur date de comblement quand on pouvait les cerner, donc une synthèse globale sur l'ensemble de la Bretagne, qui permet de mieux percevoir les évolutions en termes d'architecture, puisqu'en fait ça démarre par des grandes caves boisées, parfois séparées avec des cloisons de bois, et ça continue par des souterrains creusés dans la roche en sape, à partir d'un ou plusieurs puits. Une question que je me pose depuis plusieurs années, en fait, les parallèles pour cette période-là se trouvent uniquement outre-Manche, Irlande, Pays de Galles, Écosse, et on n'en trouve pas ailleurs. Si c'était lié à la conservation des céréales, ça pose question, puisqu'en fait, c'est des structures qui peuvent être en anaérobie. Sur le site de Pôle que j'ai fouillé, en fait, c'est lié à des structures très particulières qui sont des structures semi-enterrées avec des drains permettant l'écoulement des eaux de condensation, avec des dispositifs en fait d'accès thermiquement très contrôlés. Et la question que je me pose, c'est de savoir si ces structures ne font pas partie de lieux pour la conservation des matières animales plutôt que végétales. Donc savoir s'il ne s'agit pas de transformation de l'étage, en fait, puisque les zones que je viens de vous citer en Europe sont liées à l'élevage, majoritairement. La question du paysan, c'est toujours comment survivre à l'hiver, donc en entreposant des matières végétales produites par l'agriculture ou des matières grasses animales. Et la question, c'est est-ce que ces régions n'auraient pas produit l'équivalent de fromage qui aurait permis ensuite de passer l'hiver et de conserver en bonne condition en fait ces éléments-là. Là, seules les analyses physico-chimiques pourront y répondre. Donc c'est des questions qu'on doit poser aux analyses physico-chimiques dans les rares récipients trouvés dans ces lieux-là.
Justement, un site du 6e siècle avant notre ère, vous en avez fouillé un, et pas n'importe lequel, un site absolument extraordinaire, Pôle.
Alors Pôle, il est à la fois semblable aux autres habitats gaulois trouvés en Bretagne et différent. Je m'explique. Par son histoire, il est assez semblable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ferme qui commence de manière importante, hein, avec un enclos d'un hectare et demi de dimension et une maison d'habitation de 400 mètres carrés. Donc on est vraiment dans des dimensions hors normes pour ces habitats-là. Par contre, il démarre à la même période que démarrent la plupart des habitats enclos dans cette partie de la Bretagne. Il se développe pendant tout le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ avec ses cimetières familiaux, ornés de stèles également, comme les autres habitats. Au 4e siècle, il résiste. Il abandonne petit à petit ses structures de stockage souterraines, mais il continue à vivre. Et en fait, il prend son essor au 3e siècle avant Jésus-Christ, comme les autres habitats enclos. Simplement, il prend une part de monumentalité plus affirmée. Au lieu d'être délimité par un simple talus parmenté de pierre, il est délimité par un vrai petit rempart, avec des tours portières, avec des tours d'angle, ce qui là est très original par rapport aux autres habitats qu'on a fouillés en Bretagne, dans la péninsule bretonne. Et ensuite, il va devenir vraiment un site monumental dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, fin du 3e siècle. Il va devenir fortifié, ce qui là est très particulier pour le coup, défendu par 2 lignes successives de remparts, avec des fossés vraiment monumentaux qui peuvent aller jusqu'à 11 mètres de large et 4 mètres 50 de profondeur. Donc on n'est plus du tout dans des simples clôtures, mais vraiment dans un habitat qui peut résister à une troupe militaire, une petite troupe militaire. Et ensuite, au 2e siècle avant Jésus-Christ, après un incendie qui a ravagé une partie du site. Le site va continuer sous la forme d'une résidence monumentale, toujours, et dominant une petite bourgade qui va se créer dès le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'abri d'une nouvelle ligne de remparts. Donc on a vraiment une petite bourgade gauloise qui s'installe avec ses ateliers, ses habitats périphériques et des grands entrepôts pour stocker en fait les céréales et traiter les céréales dans cette partie du site. Ce site va s'arrêter donc dans les décennies qui ont suivi la conquête, probablement vers les années 15-10 avant Jésus-Christ, on le sait par l'ordre de chronologie. Il va être systématiquement démantelé et au même moment, un petit lieu de culte va être édifié à côté. Enfin, je dis petit, il fait quand même un hectare de superficie autour de deux terres de l'âge du bronze pour garder la mémoire de ce site pendant encore trois siècles. Alors, l'histoire de ce site, c'est l'histoire un peu des campagnes bretonnes, mais placée du point de vue du sommet de la hiérarchie de ce temps-là.
Yves Ménez, la fonction de ce site est forcément une fonction très très importante. On est visiblement sur un lieu de pouvoir, mais on est sur quoi ? Une résidence, un manoir, quelque chose de la sorte ?
Alors on est sur une résidence de l'aristocratie gauloise, probablement au haut niveau de l'aristocratie, c'est pour ça que j'utilise plutôt le terme de noblesse, au sens où la noblesse, après la création des cités, participe aux décisions politiques de la cité. Donc on est vraiment plutôt vers le sommet de l'aristocratie des Osismes, ce peuple qui occupait le bout de la péninsule bretonne. Et le site évolue en fonction, en fait, de la position de l'aristocratie dans la société. Au départ, c'est un très grand domaine rural qui cultive lui-même un terroir relativement important avec un ensemble de terres qui atteignait certainement plusieurs centaines d'hectares, vraisemblablement. Ensuite, il y a une dimension militaire qui prend à certains moments le pas en fait sur cet aspect de simple résidence rurale au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, on va vers un lieu de pouvoir qui domine une agglomération, mais qui correspond en fait aux sources principales de richesse de ce temps-là, qui sont avant tout l'administration des territoires, la gestion des réseaux vières, la perception des douanes, la position au sein de la cité. Donc on est dans une élite de l'aristocratie osisme qui fait évoluer sa demeure en fonction des manifestations de pouvoir du temps. Et donc, au moment où, en fait, la Gaule est conquise, cette manifestation de pouvoir peut plus prendre la même forme. Donc, ils abandonnent leur résidence à la mode gauloise pour vraisemblablement construire une demeure à la mode romaine, à la fois dans la périphérie de la capitale de cité et surtout dans la capitale de cité qui vient d'être fondée, qui est la ville de Carhaix-Vorgium, qui a dû être fondée vers 15-10 avant Jésus-Christ, à 15 kilomètres à vol d'oiseau de là.
Alors, ce que tout le monde connaît de Paul, c'est quatre sculptures absolument extraordinaires.
Oui, donc les sculptures sont un manifeste de l'aristocratie, puisqu'en fait, il s'agit de pérenniser la mémoire de personnages importants. Alors, l'aristocratie n'est jamais qu'une mémoire exacerbée. On a tous des grands-parents. Par contre, les familles aristocratiques ont des ancêtres et la mémoire est profonde. Et donc, en fait, dans la logique de l'éducation des jeunes aristocrates, il faut valoriser l'histoire familiale en gardant la mémoire des personnages les plus importants, ceux qui ont un peu trahi la famille ou qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions familiales sont un peu oubliés. Par contre, ceux qu'on souhaite valoriser, ceux qui ont eu des fonctions importantes, qui ont été des combattants valeureux, des personnages importants, ceux-là, on en garde la mémoire. Et les bustes de Paul gardent la mémoire de personnages importants dont on a perdu l'histoire. On sait simplement qu'on a souhaité garder au sein même de la famille la mémoire de ces personnages. Il y en a un qui a le cou orné d'un torque, donc l'équivalent d'une décoration qui montre qu'il a été honoré par la cité pour des faits importants. Et surtout, il tient dans ses bras une lyre, donc on peut penser qu'il s'agit d'un barde, puisque d'après Ludor de Sicile, les bardes accompagnaient leurs hymnes et leurs satires en fait à l'aide d'un instrument qui ressemblait à une lyre.
Vous me dites que Paul s'achève avec la création de Carhaix, donc Carhaix, ville romaine. Carhaix est justement fouillé et il y a pas mal de fouilles côté romain.
Alors côté romain, l'évolution des fouilles se fait essentiellement par l'archéologie préventive qui est liée à l'évolution de chaque capitale de cité. Donc Rennes est énormément étudiée puisque c'est la métropole régionale qui se développe actuellement énormément avec une densification urbaine importante. Donc beaucoup de fouilles importantes sont faites à Rennes et montrent que la ville dont on estimait la superficie il y a encore 5 à 10 ans à une soixantaine d'hectares était en fait beaucoup plus vaste, atteignait probablement 80 ou 100 hectares au moins et se développe donc entre l'île et la Vilaine sur tout un plateau. avec un démarrage précoce et un développement rapide de la ville. Carhaix se développe, est une capitale de cité qu'on savait importante pour le coup de l'ordre d'une centaine d'hectares, puisque la cité des Ozismes était une cité majeure à l'extrémité de la péninsule bretonne. Pendant un temps, Carhaix avait du mal à se développer, puisque situé en centre-Bretagne, loin des grands axes routiers, loin des grands axes ferroviaires. Là, en fait, le développement notamment d'usines de lait fondées par les Chinois suscite une nouvelle activité économique. Et donc la nécessité de logement pour les travailleurs qui vont travailler au sein de ces usines, qui fait qu'il y a un redémarrage de l'archéologie préventive à Carhaix. Et donc actuellement, les fouilles montrent aussi bien en périphérie urbaine, le tracé de l'aqueduc qui alimentait la cité et les carrières qui ont contribué à sa construction, donc les évolutions urbaines au travers de la conduite d'eau qui l'alimentait, qui d'ailleurs relie le site de Carhaix au site de Paule, puisque l'aqueduc va chercher ses sources au pied de l'ancienne résidence gauloise, et également montre en fait le dynamisme de la ville entre le règne d'Auguste, également jusqu'au Bas-Empire, puisque en fait une grande demeure sous l'hôpital, une grande demeure dont l'occupation continue jusqu'au IVe siècle de notre ère, voire le début du Ve siècle, a été encore fouillée cette année.
Une des autres particularités de la Bretagne, c'est bien sûr d'être totalement déconnecté du royaume de France. C'est le cas notamment pour les Mérovingiens qui n'apparaissent pas donc en Bretagne. Vous fouillez et vous vous intéressez à cette période du Haut Moyen-Âge ?
Alors oui, le Haut Moyen-Âge, pour les mêmes raisons que l'âge du bronze, a été un temps le parent pauvre de l'archéologie de sauvetage en Bretagne, tout simplement parce que les sites étaient très difficiles à identifier. On trouvait quelques trous, quelques fosses dans le cadre des sondages effectués dans le cadre de l'archéologie préventive, qu'on avait du mal à dater, puisque généralement il n'y avait aucun tesson, aucun mobilier dedans, et il était très difficile de circonscrire ces sites et de prescrire une fouille sans avoir d'éléments probants auprès du maître d'ouvrage ou du préfet de la région Bretagne ou de la commission interrégionale de la recherche archéologique pour justifier d'une prescription de fouille. Là encore, le fait de faire des datations radiocarbone pendant les diagnostics, d'ouvrir des vignettes de décapage, a permis de plaider en faveur d'un décapage sur ces sites-là. Et donc la vision de l'habitat du Haut Moyen-Âge breton a très considérablement progressé dans les 15 dernières années. Et on commence à avoir un très bon corpus d'habitat breton, alors aussi bien dans la zone franque, puisque la péninsule bretonne, en fait, actuellement, où on parle le breton d'un côté, le gallo de l'autre, en fait, était à la fois pour partie sous domination franque, pour partie sous domination bretonne, avec les frontières qui ont fluctué tout au long du Haut Moyen-Âge en fonction des rapports de pouvoir et de puissance ou de relations amicales qu'avaient les différents royaumes. Donc on commence à avoir des bases archéologiques saines pour étudier en quoi l'organisation de ces territoires est semblable ou différente d'un lieu à l'autre, le mobilier utilisé différent d'un lieu à l'autre, le plan des maisons différent d'un lieu à l'autre. Bien évidemment, il y a des similitudes, c'est-à-dire d'un côté, y compris la Bretagne dans sa zone bretonne, s'inscrit dans les grands rythmes de l'occupation du Moyen-Âge de l'ouest de la France. On trouve des monnaies carolingiennes, y compris en pleine zone bretonne, qui mènent des échanges notables durant ces périodes-là. Et en même temps, on observe malgré tout des différences dans le plan des habitats, dans l'organisation des territoires, qui montrent de réelles différences également. Et une interrogation qu'on se pose, c'est la façon en fait dont les cités ont été constituées. Autant l'histoire des cités Riédon, donc autour de Rennes, ou Vénètes autour de Vannes, sont conformes à ce qu'on voit ailleurs en Gaule, c'est-à-dire que les évêchés s'implantent dans les anciennes capitales de cités romaines, et l'histoire de ces cités ne tranche pas fondamentalement avec ce qu'on va trouver plus à l'ouest. Le cœur de ces villes est également fortifié au Bas-Empire. Rennes a un castrum du Bas-Empire, Vannes a un castrum du Bas-Empire aussi. Donc c'est une logique assez classique qu'on va retrouver par exemple au Mans si on va sur une ville plus à l'est. Autant en fait la logique des cités Coriosolides autour de Corsol et Ozisme autour de Carhaix est différente. C'est-à-dire qu'en fait la fortification ne va plus être urbaine autour de la capitale de cité mais côtière. Donc le choix est clairement d'une mise en défense des côtes par le biais, par exemple, du port d'Alette pour la cité Coriosolite. Donc c'est une mise en défense des côtes. La capitale des cités continue à vivre, mais en fait, il y a vraiment des choix politiques qui semblent différents à cette époque-là, et peut-être des accueils de troupes auxiliaires, d'auxiliaires de l'armée romaine, en fait, différentes, avec notamment, probablement, la venue de corps auxiliaires venus peut-être d'outre-Manche. Donc c'est ce que nous raconte les histoires anciennes par les textes, c'est ce qu'il faudrait confronter aux données de l'archéologie en accumulant les données, en lançant des procédures raisonnées dans le cadre de l'archéologie préventive et programmée, puisque la recherche avance sur ces deux pieds. On devrait pouvoir au moins avoir les éléments raisonnés d'analyse sur cette question.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Monteil et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons l'art et la numismatique celtique.